Il est 10h20 sur France Inter, dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Audiard l'aurait adoré, Mimi Marchand, la gouaille, la clope au bec, le culot monstre, l'insulte facile et la main sur le cœur. Portrait de la dealeuse en chef de la presse People, une bombe au cœur du système, écrit-on, un coffre blindé de secrets sur les stars et les puissants de ce monde, secrets qu'elle lâche ou qu'elle retient selon des critères bien à elle. En attendant, Brigitte et Emmanuel Macron en maillot de bain à la une de Paris Match, c'est son coup monté, je dis bien monté, quoi qu'en dise le candidat encore interrogé à ce sujet hier soir sur France 2. Bonjour Sophie Desdéserts.
Bonjour.
Potin et paparazzi, Mimi les bons tuyaux, à lire dans le numéro d'avril de Vanity Fair, toujours en kiosque. Profitez-en d'ici la revue de presse. Je et Philippe Bandel. Salut Philippe.
Salut Sonia.
Exégèse du commentaire ce matin.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez?
Lieutenant Colombo, officier de police.
La police?
Je vous apporte une très mauvaise nouvelle, monsieur Hanlon, et comme nous ne savons pas où joindre madame Wagner, son mari, Eric Wagner, a été trouvé mort il y a quelques instants dans sa piscine.
Nicolas Dupont-Aignan aime Columbo. La série préférée de Jean Lassalle, c'est Desperate Housewives, celle de Marine Le Pen, House of Cards, celle de Nathalie Arthaud, Un village français. Emmanuel Macron, lui, n'en regarde pas des séries. François Fillon en regarde plein, accro à 24 heures chrono. Il cite aussi The Wire, Le Bureau des Légendes ou Downton Abbey. Il a plutôt bon goût, mais en côté série. C'est à lire dans le TV Mag du week-end. Les 11 candidats répondent à un questionnaire télé. C'est assez rigolo, c'est assez frais, leur programme favori, mais aussi leur façon de consommer ce média et ce qu'ils feraient des chaînes du service public. Alors, comme tous les vendredis matins, on joue et on gagne. Alors, on gagne ce matin Jérôme Bosch, Le Diable aux ailes d'ange. Le film, c'est un documentaire qui redonne vie au tableau du maître flamand. C'est assez surprenant, c'est assez poétique, c'est très beau. Voici la Madeleine à reconnaître, voici la question. Mais qui donc pouvait bien présenter à la télé, en 1975, le jour du Seigneur? Je dis qui donc, car aujourd'hui c'est une voix de radio et qu'elle vous est très familière.
Aujourd'hui nous avons réuni sur le plateau du jour du Seigneur un incroyant qui a ses conceptions, c'est Monsieur Guy Penn, et puis un prêtre, Jean-François Six, qui est responsable depuis une dizaine d'années du secrétariat français pour les non-croyants. Ce que croient les incroyants, c'est peut-être un mauvais titre.
Le même, il y a 42 ans, qui présentait le jour du Seigneur en ce jour de novembre 1975. Le premier d'entre vous qui m'écrit à l'instant M tout attaché at radiofrance.com, l'instant M at radiofrance.com, a gagné. Philippe Vandel.
Non, j'ai pas la réponse, mais je vais parler de mardi, ce que j'ai
c'est
vu.
C'est rare
le
que
grand
vous n'ayez
débat.
Pas la
là,
réponse.
Là, j'ai vraiment pas trouvé,
il
j'avoue.
Sèche.
J'ai pas la boîte de Madeleine, elle est vide. Mardi, c'était le grand débat à 11 candidats pour la présidentielle. Alors, je vais pas revenir dessus. Tout le monde a fait une analyse, distribué bons et mauvais points, c'est normal. Y compris le JT de 20h de TF1, morceau choisi.
Philippe Poutou, souvent dissipé, n'y est pas allé par quatre chemins.
Vous êtes avec nous
sur les affaires.
Plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent.
Une heure plus tard, il recommence.
Même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye, sa famille.
Et cette fois, François Fillon perd ses nerfs. Un thème qui le rend fébrile. Il évoque la moralisation de la vie publique, la voie brisée.
Préside. Persécuté politiquement.
Marine Le Pen, souvent sur la défensive, cible principale d'Emmanuel Macron.
Donc vous avez entendu, Philippe Poutou est souvent dissipé, François Fillon perd ses nerfs, il devient fébrile, sa voix est brisée, Marine Le Pen souvent sur la défensive, TF1 a repassé les moments où les candidats n'étaient pas à leur avantage. Et puis le mardi d'avant, exactement une semaine en translation, j'ai regardé le match de foot tant attendu, France-Espagne sur TF1. La France a été totalement surclassée par l'Espagne 2-0, un chiffre, les Espagnols ont eu le contrôle du jeu pendant 60% du temps, ce qui est humiliant pour une équipe qui joue à l'extérieur. Pourquoi ils avaient le ballon? Parce que quand les Français récupéraient la balle, ils tentaient une passe aussitôt interceptée par un Espagnol. Parfois, c'est des passes de débutants. On avait l'impression que les Français visaient directement un adversaire. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que je viens de dire. On va regarder un extrait, ou plutôt, comme on est à la radio, on va l'écouter. Eh ben non, il y a rien. Non non. Contrairement à d'habitude, il y a pas d'extrait. Et oui, c'est parce que j'en ai pas trouvé, Sonia.
J'ai cru qu'on était en plein plantage généralisé.
Non, jamais les deux commentateurs Margoton ou Lisa Razoun n'ont dit tel ou tel joueur a complètement manqué sa passe, un tel percénaire, un tel fébrile, rien, pas de critique frontale. Je me suis rabattu sur les chaînes d'info, les autres, les chaînes sportives pour voir les erreurs des Français, comment un fan voit les accidents et là ça marche bien, écoutez bien. Rien non plus. Rien non plus. Et pour cause, car les chaînes n'ont le droit de diffuser qu'une seule minute du match au nom du droit à l'information. Et si elles veulent dépasser ce temps, il faut payer. Les tarifs sont exorbitants. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi TF1 ne montre pas un résumé des panades des Français? Réponse, parce que TF1 a acheté l'exclusivité des images, un contrat de 140 millions d'euros sur 4 ans pour retransmettre les 40 matchs des Bleus. Ça fait 3,5 millions d'euros par match. Eh bien, pour ce tarif, ils vont pas se fâcher avec l'entraîneur, ni les joueurs, ni la fédération, ni les sponsors. Sort qui sont souvent des annonceurs. Voilà pourquoi il n'y a pas à la télévision française d'émissions critiques de football alors que ça passionne des millions de gens, contrairement à ce qu'on peut voir sur la politique ou sur les livres. Par exemple, l'émission « Ça balance à Paris » sur Paris Première, c'est le chroniqueur Xavier Le Herpeur qui a lu le roman VIP et il n'a pas aimé et il cite des passages, lui.
Moi, j'ai lutté contre le livre, mais du début jusqu'à la fin. Je trouve que ça la provoque à deux balles, parce qu'on peut dire quand même, c'est pratiquement le début, qu'effectivement, il couche avec une comédienne qui va être violentée par deux mecs des cités, donc le président va être obligé de flicher un des deux mecs. Je trouve que déjà, à ce niveau-là, la fellation du président de la République, chopée par un paparazzi, mais les bras m'en tombent, je trouve que ça la provoque potache, mais vraiment sans aucun intérêt. Le bouquin potache, est constamment comme ça, bon...
Voilà, un livre, ça coûte 19 balles. La politique, c'est gratuit, mais le foot, c'est payant, alors museau.
Et pourtant, ils se lâchent sur Canal, non? Le Canal Football Club, Ménès, Pro, Riolo, dans un autre groupe, etc., non?
Pas les matchs de l'équipe de France,
pas
vous avez
les
raison.
C'est
sacré, les matchs de l'équipe de France, c'est sacré.
Parce que Canal, ils déboursent un fric pas possible pour acheter le championnat.
Et bien, sur le championnat, ils se permettent.
Ils tapent.
Et bien, ils se permettent, et c'est pour ça que moi, je regarde le Canal Football Club.
Merci, Philippe. Alors, nous avons un gagnant, le gagnant s'appelle Fabrice. Le jour du Seigneur 1975. C'était Jean Lebrun, notre Jean Lebrun à nous. À l'époque, il avait des cheveux, il était professeur, il fumait le cigario en classe, il me l'a raconté. Bien sûr, sa célèbre pipe est venue après. Voilà, et pour info, ce matin, Jean m'a signalé un article du journal La Croix. Les parlementaires de Podemos, figurez-vous, veulent supprimer la messe télévisée en Espagne. C'est une institution et l'église tape du poing. Allez, changement de décor, les pages glamour et glacées du Vanity Fair, l'histoire rocambolesque de Mimi Marchand.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Hier, l'émission politique de France 2, Emmanuel Macron, invité, interrogé sur sa couve de match en maillot de bain.
Je ne suis pas propriétaire de Paris Match.
Oui, mais vous acceptez de poser, c'est pas la question.
Attendez.
Vous acceptez de poser.
Non, pardon de vous le dire, il y a des photos qu'on peut faire poser dans la vie, c'est pas une photo
volée. Ça, c'est totalement une photo volée, c'est ce que vous nous expliquez.
Non, mais ce que je vous explique, et ce que j'ai dit et redit, c'est pas moi qui fais les unes de magazine. Parce que.
Et les unes people,
parce
comme
que la presse
dit.
Se retourne.
Les unes people,
mais elles
sont avec
votre consentement. Je vais être très concret avec vous. Pourquoi? Mais parce que ça fait vendre du papier.
Non, mais pour le dire clair, cette photo, elle est prise avec votre consentement, Emmanuel Macron.
Mais attendez, regardez.
Une opération à peu près organisée.
Je ne fais pas un appel, si vous voulez.
On vous demande et vous dites oui.
Non, on me prévient qu'il y a cette photo, et à ce moment-là, comme on me dit on va le faire, j'accepte de répondre aux journalistes.
Photo prise en 2016 sur la plage de Biarritz, Michel Marchand a parlé à Brigitte Macron. Je cite, « Réfléchis, toute la France parle de votre différence d'âge, là tu vas leur en mettre plein les mirettes, assume, tu es belle, ma belle. » Mais qui est donc cette Michel Marchand dite Mimi? Il faut rappeler Sophie Desdéserts, vous en avez fait un brillant portrait, un portrait enquête. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de rencontres pour écrire ces pages dans le Vanity Fair de ce mois. Il faut rappeler les faits d'armes médiatiques de Michel Marchand. On va commencer par rappeler qu'elle a été dans les années 90 la patronne de Voici à la grande époque. 1 million d'exemplaires et c'était un festival de révélations et aussi de procès à l'époque.
La patronne de Voici, c'est pas tout à fait vrai. Mimi Marchand est arrivée à Voici par la petite porte, comme pigiste. D'ailleurs, elle n'a jamais été salariée du journal. J'ai rencontré le patron de Prisma Presse à l'époque, qui s'appelle Axel Gans, et qui m'a raconté longuement son parcours. Donc, c'est une femme qui est extraordinaire parce qu'elle part de rien. C'est une autodidacte et elle devient une journaliste. Elle a sa carte de presse et elle rentre vraiment à Voici par la petite porte. Et
Et elle va régner sur ce journal.
Et elle règne totalement sur ce journal, à tel point que quand on l'écarte, elle fonde à côté, dans son appartement, à côté de la rédaction de Voici, elle recommence. Et elle est tellement indispensable que même quand les dirigeants de Prisma veulent s'en débarrasser, les rédacteurs en chef disent « on peut pas faire le journal sans elle ».
On peut pas faire le journal sans elle. C'est elle qui a révélé les amours de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, l'enfant caché de Claire Chazal et de PPDA. Mais c'est elle aussi qui a bidonné une fausse interview, celle du garde du corps de la princesse Diana, au moment de l'accident.
Elle s'en défend, hein, bidonner.
En effet, c'est pour ça qu'elle a été écartée à l'époque de la rédaction. Et puis quand elle recommence en fait à refaire le journal dans l'immeuble d'à côté, vous vous racontez qu'il y a quand même Tracfin, qui est la cellule financière du ministère de Bercy, qui découvre des mouvements d'argent très douteux et qui va carrément mettre le grand patron de Prisma en examen.
Absolument. Et d'ailleurs, Axel Gans,
et elle sera arrêtée,
raconte avec beaucoup d'émotion. C'est un monsieur qui a aujourd'hui plus de 75 ans et qui raconte très bien ce moment-là. C'est la première fois qu'il est mis en examen et c'est là où il découvre le nom de Mimi Marchand. Donc il y a une enquête qui a été très très longue. Elle est sortie blanchie, il faut le dire, de cette enquête. Et c'est aussi la particularité de cette femme, donc complètement autodidacte, qui a été garagiste au début de sa vie, qui a ensuite
Il faut raconter ça, parce que quand on dit que c'est un personnage de diarre,
C'est un personnage. Elle s'est construite à la force du poignet. Mm-hmm. Elle a une capacité de travail phénoménale. J'ai pu voir, parce que j'ai eu la chance de passer 48 heures éprouvantes dans son bureau, parce que ça n'arrête pas, le téléphone sonne, elle est sur absolument tous les fronts, de la compta à n'importe quel...
Elle a été mère à 16 ans,
elle a élevé quasiment seule ses enfants, elle a une vie très rock'n'roll, puisqu'à un moment même, elle part à Los Angeles faire une espèce de trafic de bagnoles, parce qu'elle repère à l'époque que les voitures de Colombo se vendent très bien, donc elle les achète en France, elle les fait retaper à la frontière mexicaine, elle les revend à Los Angeles.
Là aussi, elle fréquente aussi des voyous, deux de ses anciens compagnons ou maris sont passés derrière les barreaux.
Elle a été dans tous les milieux, c'est une autodidacte complète, elle a été formée à l'école de la vie et c'est un personnage absolument inouï.
Alors, à l'école de la vie mais aussi à l'école de la nuit, et ça c'est très important. Absolument. Quand elle rentre en France, parce qu'elle vous dit cette phrase assez drôle, elle dit, il y a un moment j'en ai eu marre, au fond Los Angeles c'est Angoulême avec des palmiers, donc elle rentre en France, là aussi elle a eu quelques ennuis avec la justice aux États-Unis. Elle rentre en France, elle monte des boîtes de nuit lesbiennes.
Je crois pas qu'elle ait eu des ennuis de justice aux États-Unis.
Avec l'un de ses anciens compagnons. Elle monte des boîtes de nuit lesbiennes à Paris et elle s'impose dans ce milieu où justement, ce milieu interlope, où se croisent des gens qui ont du pouvoir, des stars, mais aussi des brigands, des gens peu recommandables.
Et c'est là que commence son histoire et c'est là qu'elle commence à tisser ses réseaux. Et effectivement, le monde de la nuit est une très bonne école. C'est une femme qui a énormément de poigne. Elle a de la gouaille. Mmh, mmh. Les mecs la respectent, les voyous la respectent et elle se fait comme ça un réseau absolument fabuleux qui va des gens de la nuit, Régine que j'ai rencontrée qui à l'époque, avec qui elle travaille déjà à l'époque, des policiers puisqu'elle finit même par en épouser un qui tombe amoureux d'elle.
Un ancien policier des renseignements généraux.
Absolument, DRG qui est d'après ce que j'ai retracé, qui fait une enquête et qui pour les besoins de son enquête vient dans cette discothèque et qui tombe amoureux d'elle et elle l'épouse. Et d'ailleurs le mariage, on y viendra peut-être, mais à Neuilly-sur-Seine avec absolument tout un parterre de célébrités dont Nicolas Sarkozy et Carla Bruni-Sarkozy qui viennent, qui font l'effort de venir.
Eh bien venons-en justement, parce que vous dites elle a des dossiers absolument sur tout le monde et la presse people à côté du milieu de la nuit, ça lui a vraiment paru être vraiment du gâteau, quoi, du beurre. Un jour, elle appelle Carla Bruni et elle prétend, parce qu'on ne saura jamais si c'était de l'appât, du culot ou du bluff, elle prétend qu'elle vient de recevoir un fax dénonçant la relation cachée de Carla Bruni avec Raphaël Enthoven. Carla Bruni l'a fait venir chez elle. Elles négocient ensemble ce qu'on fait sortir ou non de cette histoire et elles deviennent très très proches. Et ensuite, racontez-vous, la Sarkozy, c'est-à-dire cette période et ce milieu deviendront une mine pour Mimi Marchand.
Alors Carla Bruni Sarkozy a eu l'intelligence dès le début d'essayer de comprendre comment fonctionne le système médiatique.
Ce que Brigitte Macron découvre à son tour, en fait, aujourd'hui.
Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que face à cette espèce de trou noir qui est la presse people, elle est une éclaireuse formidable pour ces gens-là. Et Carla Bruni Sarkozy, comme Brigitte Macron aujourd'hui, a l'intelligence d'écouter cette femme qui est une espèce de professeur de la presse people qui sait exactement qui fait quoi, qui connaît tous les photographes de la place, qui a ce correspondant aux États-Unis,
au ministère de l'Intérieur, à BFM TV, au Canard Enchaîné. Enfin, son réseau est absolument gigantesque.
Ça va de la place Beauvau à la rédaction de BFM en passant par
et qui a sa propre agence de paparazzi qui s'appelle Best Image. Donc en fait, ce que vous racontez très bien dans ce papier qu'on comprend en filigrane, c'est que ce système-là, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi.
Absolument. Et c'est ce que Carla Bruni Sarkozy a compris très tôt. Et c'est ce que Brigitte Macron, qui est, on le rappelle, quand même une professeure de lettres classique au début, qui est totalement étrangère à ce milieu-là, et qui est paumée. C'est-à-dire que quand elle commence à avoir cette médiatisation autour d'elle, et on le sent très vite, dès que Macron est secrétaire général adjoint de l'Élysée, il y a déjà autour de lui l'histoire de cette femme qui a été sa professeure, qui est plus âgée. Donc il y a déjà un roman qui se construit très très vite quand Macron émerge. Moi, je le repère à l'époque, je suis encore au Nouvel Observateur, et dans les rédactions, même ceux qui suivent l'économie, ça bruisse. Et donc, quand il est nommé à Bercy, évidemment, la presse people s'intéresse à sa femme.
S'en empare.
C'est une femme en plus qui a de l'allure.
Et en plus, Sophie Desdeserts, ce qu'on comprend aussi dans le parcours de Mimi Marchand, c'est à quel point tout cela a changé. Parce qu'à l'époque où elle était chez Prisma, chez Voici, la ligne rouge à ne pas franchir, c'était les politiques. On voit bien que tout a basculé, parce que vous le racontez très bien, elle s'en défend, mais le Gaillet-Gate, la photo de Hollande sortant de chez Julie Gaillet, manifestement c'est Mimi Marchand.
Alors, on peut pas dire que c'est elle, elle est effectivement dans les tuyaux, pas loin, avec Sébastien Valliella, qui est un excellent paparazzi qui a été formé par les parrains de la profession, Rostin et Mouron, et qui est un type très futé, très intelligent, très drôle.
Et par ailleurs, la patronne de Closer,
et qui est très proche de Mimi Marchand. Et effectivement, elle est au courant. La ligne est là, elle est au courant. Et le coup se fait avec elle. À l'époque, elle va pas en première ligne, et c'est Valliella qui répond aux interviews parce que précisément, elle est en train de monter sa boîte. Il faut savoir qu'elle a plus de 65 ans. Elle décide de monter son entreprise quand même. Après s'être lancée aussi dans les nouvelles technologies, puisqu'elle est à l'origine de la création du site Pure People, qui est aujourd'hui un espèce de mastodonte qui a été racheté par Marc Ladret de la Charrière, qui la connaît bien aussi. Donc, si vous voulez, elle part de rien, elle est autodidacte et elle devient aussi une femme d'affaires.
Une femme d'affaires. Et d'ailleurs, qui présente Mimi Marchand à Emmanuel Macron et sa femme ? C'est Xavier Niel, le patron de Free et propriétaire du Monde, qui est aussi quelqu'un de très lié à Mimi Marchand.
Oui, Xavier Niel, c'est effectivement lui qui, quand il se retrouve à un dîner avec Emmanuel et Brigitte Macron, et que Madame Macron se plaint de sa vie envahie par les photographes, Xavier Niel, et il le dit dans l'entretien, il me répond là-dessus. On a un entretien et il est cité dans le papier, il accepte d'être cité, la citation a été validée, tout a été fait correctement, j'ai pas piégé. Et lui-même dit, il faut que tu vois quelqu'un, elle va t'arranger les choses, elle va te permettre de retrouver une certaine tranquillité.
La tranquillité, voilà, toute une image de la tranquillité à lire dans le Vanity Fair de ce mois-ci. Merci beaucoup, Sophie Desdeserts. L'Instant M, cette semaine, c'était Sonia Leglen à la réalisation, Marion Philippe et Raphaël Grimmarki à la préparation. Merci à tous les trois, on a bien travaillé, on a beaucoup chanté à la technique ce matin. Stéphane Poidevin, oui, on a chanté.